Radio Classique, les spécialistes.
Alors dans les spécialistes, c'est le journal imprévisible. Dans le journal imprévisible, nous faisons un chrono blanc dans un instant. Quelles étaient les musiques célèbres pendant la guerre de 14 et avant la guerre de 14. Vous aurez des surprises. Nous allons, avant d'écouter Dimitri sur la bataille des vaccins, rejoindre à Washington Laurence Haïm. Ma chère Laurence, bonjour. J'évoquais tout à l'heure la déclaration donc, de Mike Pompeo qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a une sorte de double face, en fait, aujourd'hui. Biden téléphone, mais sans passer par les services diplomatiques officiels, car pour l'instant, il n'en est pas question. Trump bloque tout à des différents chefs d'État, dont Emmanuel Macron ou le président irlandais. De l'autre côté, Mike Pompeo a fait cette déclaration. Alors, était-ce de l'humour ou pas, en expliquant que finalement, la transition entre Trump et Trump aurait lieu en douceur.
Ben, c'était pas du tout de l'humour, Guillaume, mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui sont autour de Donald Trump et Donald Trump sont absolument persuadés qu'ils peuvent encore gagner. C'est absolument incroyable quand vous leur parlez. Et hier soir, à la Maison-Blanche, il y a eu une réunion entre le directeur de campagne, quelques journalistes, la porte-parole de la Maison-Blanche, pour expliquer certaines choses. Alors, j'ai assisté à cela et on m'a dit que par exemple les morts avaient voté, que les morts marchaient dans les bureaux de vote, que les morts avaient donc triché et en gros il paraît qu'il y a des gens qui sont morts qui ont reçu des bulletins de vote et que lors du dépouillement dans certains bureaux en Pennsylvanie et dans le Michigan où les procès ont commencé, eh bien on s'est rendu compte que ces bulletins de vote venaient de gens qui avaient disparu. Alors ça c'est l'argument des Trumpistes qui disent aussi, voilà, Joe Biden n'a pas eu, en fait, les 270 grands électeurs. Il a eu 259 grands électeurs. Les médias et les démocrates ont triché en le donnant trop vite gagnant. On doit recompter, on va recompter, on va faire des procès, on va se battre jusqu'au bout. L'élection n'est pas terminée, on va gagner. Voilà ce qui se dit autour de Donald Trump.
Pendant ce temps-là, Biden donc passe des coups de fil, mais sans passer par les services diplomatiques officiels.
Oui, absolument. Ben, Joe Biden, il est président élu, donc il y a ce qui s'appelle cette transition. Alors en France, la passation de pouvoir entre un ministre et un autre dure à peine une journée. Aux États-Unis, ça dure 3 mois. C'est un protocole long qui est établi. Et là, évidemment, la transition ne peut commencer parce que les budgets maintenant sont totalement bloqués. Normalement, par exemple, un président élu commence à recevoir des briefings, des services de renseignement, mais là, les services de renseignement ne peuvent absolument pas donner des informations à Joe Biden, le président élu. La transition est bloquée, ça inquiète beaucoup les démocrates.
Merci beaucoup. 7h42, nous étions avec Laurence Haïm. Nous suivrons évidemment avec attention ces semaines qui s'annoncent extrêmement compliquées aux États-Unis. Nous avons rendez-vous avec Dimitri Pavlenko. Attendez-vous à des surprises.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
7h43, mon cher Dimitri, la principale surprise, c'est que le premier arrivé, ou en tout cas le premier annoncé parmi les vaccins, c'est-à-dire le couple entre Pfizer et le laboratoire de biotechnologie allemand, n'est peut-être pas le vaccin qui sera au fond le premier utilisable. Pour quelle raison ?
Alors, peut-être qu'il sera le premier sur le marché, hein, puisque effectivement, il a un coup d'avance dans le processus de demande des autorisations, bien qu'il
devant
soit
devant la FDA. Oui.
Voilà, effectivement, bien qu'il soit pas le seul, je vais en reparler. Mais d'abord, pour ces contraintes, on a commencé un peu à les soulever. D'abord, on n'est pas tout à fait certain de ce taux d'efficacité de 90%, qui, je le rappelle, est établi sur un échantillon de 94 personnes qui ont servi de cobayes. C'est quand même un échantillon extrêmement restreint. On ne sait même pas vraiment qui était dans
les 40 000 personnes.
Oui, oui, mais c'est au sein de ces 40 000, ce tout petit échantillon sur lequel ces résultats provisoires, c'est de ce petit échantillon que ces résultats provisoires ont été tirés. Sur D'accord. un panel plus large, probablement que le taux va baisser, surtout si vous y incluez des profils extrêmement variés, que ce soit des jeunes, des personnes âgées, atteintes de facteurs de comorbidité, etc. Et puis, il y a toutes les contraintes. On l'a dit, double injection quand même, c'est un peu lourdingue, à 3 semaines d'intervalle. Les conditions de conservation, on a commencé à beaucoup en parler, -72 degrés. Il faut pour cela des réfrigérateurs biomédicaux qui coûtent une fortune. Autrement dit, vous n'aurez pas ça dans toutes les pharmacies de France. La plateforme UPS, par exemple, qui va être chargée de distribution. distribuer ce vaccin dans le monde entier. Ils sont en train de bâtir des espèces de frigos géants dans quelques aéroports européens pour assurer le dispatching, mais ça va être compliqué. Il va falloir beaucoup de neige carbonique, etc. Donc tout ça me fait dire que ce vaccin de Pfizer, il part quand même avec un handicap face à des concurrents. Je pense à AstraZeneca, je pense à Sanofi, je pense aussi à Moderna, qui eux promettent un vaccin qui pourra se conserver à température, au frais, quoi, dans un simple...
Comme le vaccin de la grippe voilà. qu'on met dans son frigidaire tranquillement.
Exactement. Alors, il y a un autre problème, c'est l'acceptation du virus, du vaccin, pardonnez-moi. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet-là, et en ce qui concerne la France, qu'est-ce qui en ressort ? C'est que si le vaccin est européen, le taux d'acceptation est assez élevé. S'il est américain, alors là, ça baisse assez nettement. Alors, s'il est chinois ou russe, alors là, ça tombe quasiment à zéro. Donc, vous savez qu'il y a différents projets de vaccins, on en a 10 qui sont en phase 3 aujourd'hui. Il y a des chances qu'on se retrouve en réalité avec un zonage régional, en fait, avec des vaccins qui seront cantonnés à leurs frontières géographiques proches pour des questions d'acceptation. Et puis, alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que ce vaccin de Pfizer, vous avez relevé, Guillaume, puisque Pfizer avait mis plusieurs fers au feu, plusieurs projets lancés, c'est celui sur la technique de l'ARN messager qui, semble-t-il, est le plus avancé. L'ARN messager, c'est aussi la technique qui est employée notamment par Sanofi, mais aussi par le laboratoire dirigé par ce Français dont on a beaucoup parlé, Stéphane Bancel, Moderna, ce laboratoire américain. Alors, sur l'ARN messager, ce qui est intéressant, c'est que c'est une véritable révolution, en réalité, qui se passe dans la production des médicaments. Il y avait un grand papier hier dans les Échos qui racontait un petit peu ce qu'on se fait à Moderna. Et alors, je vous lis un petit passage. C'est la façon dont les chercheurs de Moderna travaillent derrière des ordinateurs. Ils n'ont pas manipulé une seule fois le virus, à part en 3D, sur un écran. Il n'y a pas de salle blanche chez Moderna, il n'y a pas de haute sécurité à part de la cryptographie. En fait, le virus est réduit à ce qu'il est, en fait, c'est-à-dire une suite d'instructions génétiques qui sont envoyées aux cellules via cet ARN messager qui sert à réencoder, à réparer l'ADN, et les cellules obéissantes se mettent alors à fabriquer un coronavirus désactivé. Ça, c'est très intéressant, parce que ça ouvre des pistes énormes, si vous voulez.
Et Moderna, la FDA, c'est à la fin de l'année.
Voilà. Alors oui, voilà, c'est là que je voulais terminer, c'est qu'en l'occurrence, Moderna, qui donc n'est pas le premier parti, vu que c'est Pfizer, mais ils sont juste derrière, et ils ont demandé les demandes d'autorisation d'urgence à la FDA pour le mois de novembre, et donc il y a des chances au final que le premier parti dans cette course au vaccin, bah, ne soit pas forcément le gagnant à l'arrivée.
Voilà, c'est à peu près la même manière ou la même méthode qui est celle de Renaud Blanc pour fabriquer son journal imprévisible, des ordinateurs partout.
ARN messager.
ARN messager. Et ce matin, vous allez découvrir, et ce fut à ma grande surprise d'ailleurs, les chansons ou les musiques, puisque nous allons ce soir avec Emmanuel Macron donc parler beaucoup de Maurice Genevoix et du 11 novembre, c'est-à-dire de l'armistice du 11 novembre. Nous allons parler de ces musiques qui furent en vogue à cette époque tragique de la guerre de 14. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu pratiquement 20 millions de morts.